R22 tout le monde. Antenne tout le monde.
Qu'est-ce qui se passe?
J'ai laissé parler ce qui.
On lance une occupation de ce lieu.
D'accord.
Entre l'extrême
droite. Ok. Quand vous dites une occupation...
On va en discuter avec vous.
Ok, très bien.
Une occupation à nous.
D'accord.
On se dit qu'on va se couper dans le même bateau.
Ouais. Oui, mais bon. Très bien. Donc,
votre... On est le collectif de soutien aux personnes sans papiers.
D'accord, très bien. Ok. Donc votre intention, quand vous parlez d'occuper, c'est de rester longtemps
C'est de rester dans
le danger l'extrême droite.
Ok. Comment?
Parce que le danger l'extrême droite sera écarté.
D'accord. Ok.
À partir de ce lieu, organiser des actions avec d'autres gens qui vont peut-être nous rejoindre, voilà, pour combattre toujours l'extrême droite. C'était des larmes.
D'accord. Ok. J'essaie de me projeter. Il se trouve qu'on on a une inauguration d'expo ce soir. Ça tombe. Voilà, mais. Non, j'entends. On va essayer de. Comment ? Oui, voilà. On va essayer de trouver le meilleur compromis possible. Je vous manque quelques instants. Très bien. Merci.
On est là. Excusez-moi. Vous savez, j'étais à l'AG l'autre jour.
Oui.
Est-ce que vous pouvez juste... du coup, avec R22, on va couvrir l'événement.
D'accord.
Est-ce qu'il y en a un de vous qui serait tenté par expliquer comment ça fonctionne une occupation?
Pour l'instant, on vient juste d'arriver. Donc, on va voir comment ça se déroule. Et c'est un peu un type d'action qu'on a fait dans d'autres contextes, notamment pour le logement. Donc, en général, on arrive tranquillement, on déploie. Et puis, il y a quelqu'un du lieu qui vient nous voir habituellement. Et là, on explique la situation. Et puis, on explique qu'on aimerait rester là pour telle et telle raison. Donc là, on va voir comment ça se passe, quoi. Mais l'idée, c'est de discuter avec les gens du lieu pour pouvoir s'installer. On va attendre qu'ils arrivent.
OK. Merci beaucoup. Trop cool.
On parle avec la direction. Comme ce sont des lieux, entre guillemets, amis, en fait, on essaie de trouver des solutions pour pouvoir dormir. Et puis pouvoir occuper le lieu en fait, d'une manière permanente, etc.
Et voilà. C'est pas d'arriver, on va dire, en position frontale directe.
Absolument.
L'idée c'est de plutôt ouvrir un espace de dialogue et d'échange, parce qu'on se rend compte à quel point beaucoup de gens sont, y compris les gens premiers concernés sur la question de l'immigration. Des personnes, alors parfois qui ont été sans papier, qui maintenant ont des papiers, mais qui ne. Qui ne savent pas ce qui va se passer. L'idée, c'est de dialoguer avec les gens, d'ouvrir une assemblée un peu permanente. Enfin, c'est plutôt l'idée de l'assemblée permanente et puis une espèce de point de ralliement où les gens savent que là, il y a un endroit où on peut discuter, s'informer, etc. C'est en constatant le manque de ça qu'a été décidé de venir ici.
Assemblée permanente, c'est-à-dire permanente, quoi. C'est ça
que... Au moins dans un premier temps, pour qu'il y ait quelque chose qui s'ancre un peu, d'être là, de rester là, effectivement, pour laisser la chose exister et de voir avec vous. Mais de toute façon, depuis le début, l'idée, enfin là, je parle, mais je suis beaucoup moins au courant que d'autres personnes qui sont plus au courant de tout ça, mais en gros, l'idée, c'est de faire un dialogue avec vous.
Mmh. Ouais.
Évidemment, ce genre d'action, c'est toujours un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit bonjour, on prend rendez-vous, on va venir.
On a déjà fait des occupations amies au TNB, on a entendu parler. Et c'est toujours à peu près le même processus, en fait.
Nous, on va en référer à nos élus, parce qu'on travaille sur Rennes Métropole, c'est un équipement de Rennes Métropole. Donc, on est obligé d'informer nos élus pour savoir quelle est la position qu'ils souhaitent avoir sur ce type d'occupation amie.
C'est un bon terme, oui.
Préfecture, il y avait une chose lorsque je disais que c'était un service public, un petit peu comme la poste. C'est l'idée que je fais. La poste, encore, tu peux aller comme ça, t'as pas besoin d'un rendez-vous. Hein. Pour moi, c'est un vrai service public. La préfecture n'en est plus, alors qu'en plus, les associations et collectifs de soutien aux migrants, ce qu'on pouvait faire, c'est accompagner sans l'autorisation, entre guillemets, de la préfecture. Maintenant, on ne peut plus le faire. On ne peut plus accompagner même une personne.
Ouais.
C'est là où on dit que les préfectures, la préfecture de Rennes notamment, c'est, C'est un bunker, quoi.
À 18h, à République.
Ah ouais, j'entraîne beaucoup. Et à 19h, on fait une AG tous les mardis soirs à la MIR, à la Maison internationale de Rennes. Tous les mardis soirs. Okay. Mais sinon, ce soir, on fait une AG ici à 18h30, puisque l'idée, c'est d'occuper le lieu là le plus longtemps possible. Contre la
Compte tenu du contexte, ouais. Vous voyez quel est le contexte.
Oui.
Mais ça va tenir, là.
Ben, on va voir aussi comment tout à l'heure donc ils sont passés. Enfin, Yves-Marie, là, donc le gars qui a les cheveux plutôt très presque blancs, et il disait que là ils étaient en train d'essayer de contacter l'élu, les élus, pour voir quand même comment ça se passe. Parce qu'effectivement, si les élus disent ok, bon bah c'est simple. S'ils disent non, on décide si on occupe quand même et comment ça se passe. Avec... Là il y a un gars là qui est là-bas, là, un vigile. Qui a la main sur la hanche, une espèce de cow-boy, et je crois qu'il a un revolver en plus sur le côté. Ça paraît fou, un vigile déchargé avec un revolver. C'est peut-être un taser, ça s'appelle, ou
je pense que s'appelle. Je pense pas qu'il ait le droit mais d'avoir un revolver, mais il me semble que c'est plutôt les tasers.
Taser, c'est ça. Taser.
Il faut qu'on trouve le meilleur compromis possible pour tout le monde, parce que évidemment, la cause, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, il faut que. Qu'on concilie au mieux nos intérêts respectifs. Donc voilà, mais la décision ne nous appartient pas. Donc on revient vers vous dès qu'on a un message clair.
D'accord,
voilà.
Pas de soucis.
À tout de suite.
Alors,
dès qu'on a des infos du comment, du propriétaire des lieux.
C'est-à-dire de la mairie.
De métropole.
Ah, c'est Rennes Métropole, non, d'accord. Mais
pas seulement la mairie.
Oui, ah, d'accord. Après, nous, quand on fait des occupes en général, pour rester dormir, on considère qu'à 5, ça se fait, quoi. Tu vois, il n'y a pas forcément besoin d'être hyper nombreux. Bah oui, parce qu'en général, c'est des trucs négociés avec le lieu. Donc, tant qu'ils nous disent, c'est bon, on vous laisse dormir là, on n'a pas besoin d'être hyper nombreux. Ça nous permet de garder de la force militante pour retourner sur plus de jours, quoi.
Okay. Voilà.
Mais après, par contre, pour l'AG, c'est cool s'il y a du monde, parce que l'objectif, c'est d'en faire vraiment un lieu d'échange, de discussion, d'organisation de la lutte.
C'est un coup de poker pour demain, en plus.
Bah, carrément, ouais.
Et qu'on est sur ça, de toute façon, on est venu. Donc, bien joué.
Toi, t'es dans quel groupe ou...
Alors, je voudrais une commune
avec
Alex.
Ouais, aussi, avec Alex, ouais.
Et GFI.
Ok. D'accord. Très bien.
Ok, bah super.
Ouais, GFI, mais là, je représente pas là maintenant là.
Okay.
Je suis plutôt de Rennes Commune avec Alex Duffy, du coup. Ulysse, que vous connaissez peut-être.
Ulysse ?
Ouais.
Non. Enfin, Ulysse là.
Mais... Je m'appelle Ulysse aussi.
Bah, du coup, on aura un deuxième qui veut se présenter du coup au municipal de 2026.
D'accord.
Du coup, voilà. Mais du coup, en soutien aussi ici, c'est important, important qu'il y ait du monde. Voilà.
Mais il faut que ça arrive avant
19h
a priori.
Ouais, mais là je pense que. Enfin,
plus il y a une mobilisation au centre-ville du.
Ouais, mais là ils ont parlé de. Oui, ils ont pas de. Enfin, ils peuvent occuper les lieux. Mais là ce qu'il faut se dire, c'est que demain il y a les Gay Pride.
Ouais.
Il y a l'intersyndical.
Ouais.
Ici ça va. Enfin, ce soir c'est dégagé.
Ouais,
ça c'est sûr.
Ouais.
À part si. Oui, il y a un accord des lieux qui disent que. Bah oui, ils peuvent rester.
Ouais.
Mais pour moi ça va être. Enfin. C'est coup de poker sur coup de poker ce qu'il joue là. Ça peut être fait dans les règles de l'art, mais c'est un coup de poker pour demain. Mais si tiennent la nuit, c'est incroyable. Jusqu'à la mobilisation demain, ça peut être un bon coup à mener. Voilà. Voilà.
Merci beaucoup.
Pas de soucis.
Ton entourage parce que c'est une action qui a de la valeur.
Ah oui, non, mais ça c'est sûr. En vrai. Bah oui, les membres de l'organisation leur ont dit que l'inauguration pouvait avoir lieu, enfin tout est ok, tu vois.
Tous les cow-boys actuellement, c'est normal.
De qui ?
Ah ouais. Les personnes qui étaient là, qui se mettaient en ligne, enfin tu sais, c'est des montres, le dos.
Mais il y a grave moyen, comment dire, il a raison, le mec qui nous a parlé. S'ils acceptaient de rester, en fait, juste demain, il y a trop d'événements importants. Genre, je pense qu'ils vont avoir grave peur que tout Rennes soit ramené dans les champs libres, tu vois.
Ouais.
Non, moi j'ai connu l'époque où on allait à la préfecture comme on va à la poste. Il n'y a pas besoin de rendez-vous, maintenant il faut des rendez-vous.
Mais oui, mais ils sont tellement nombreux, il y a tellement
peu de... Vous trouvez ça normal? Une question, vous trouvez ça normal? Oui ou non? Si vous dites oui, on n'est pas d'accord. C'est pas du tout normal, ça doit rester un... Ça doit pas être un bunker, ça doit être un service public qui n'est pas. Et vous travaillez en préfecture en plus?
J'ai travaillé pendant 3 ans et demi en préfecture.
Ouais, mais alors vous trouvez ça normal, à la question que je vous pose? Alors, on est d'accord. C'est plus un service public.
On n'est pas d'accord. Voilà. Le problème, c'est que vous pouvez...
Alors que vous me dites que les Africains, ceux qui foutent le bordel à la préfecture, c'est la préfecture qui fout le bordel en premier.
Ce que je vous dis, c'est que quand il y avait des cas d'agression, des choses qui étaient vécues en préfecture, la plupart des cas...
Il y a eu combien de cas? Après, ouais, un cas, on ne fait pas de généralité. Hein.
Mais non, on ne fait pas une généralité, moi, je mais c'est à peu près 3 par mois, à peu près.
Non.
Si, le bouton d'alerte, c'était une fois par semaine, à peu près.
Mais ça suffit qu'il y avait des raisons de s'énerver.
Oui,
c'est la question qu'il faut se poser aussi. Ah oui.
Mais moi, par exemple, quand on vient voir un service, on va dans un service public,
il faut que le service soit rendu normalement. Justement, à égalité avec tous les...
Quand vous venez, vous n'avez pas les papiers nécessaires.
Non, c'est une partie écrite que vous avez là.
Non, je suis pas des... c'est la réalité.
Bon, moi, par exemple, je suis énervé parce que la préfecture n'est plus un service public comme il doit l'être. Et ça, c'est le fait politique qui a voulu les choses en cela. Sinon, vous avez le temps de...
Oui, non,
de
mais j'ai déjà lu beaucoup de choses.
Ouais. En Bretagne, en pourcentage, le premier public qui est présent, c'est lequel, à votre avis?
Vous l'avez écrit, c'est des Anglais.
Voilà.
Après, les Anglais, au titre des titres de séjour, ils étaient européens il n'y a pas si longtemps que ça.
Ils n'étaient pas dans l'espace Schengen, c'est pas pareil.
Oui, mais ils étaient dans l'Union Européenne.
Ouais,
avant le Brexit.
Il leur fallait des visas, il leur fallait quand même un titre de séjour.
Quand il y avait le Brexit, ils n'avaient pas besoin de titre de séjour, rien. Ça, c'est du juridique, hein, je suis désolé. Avant le Brexit, un Anglais, il venait en France sans papier.
Et la question, pourquoi eux, en tant que tels, bon, ils font partie de l'Europe, ils sont acceptés comme immigrants pas clandestins, on va dire, on peut le mot, et les autres ne sont pas considérés comme tels. Pourquoi on fait la différence?
Très certainement parce qu'il y a eu des accords entre les deux gouvernements dans le cadre du Brexit. Comme aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais vous, Français, vous pouvez aller en République populaire de Chine pendant 15 jours sans aucun titre, sans rien, simplement avec votre passeport.
Oui.
Voilà.
Bah, c'est pareil pour les personnes étrangères qui viennent en France ou en Europe. S'ils ont un visa, c'est la première condition, ils peuvent venir en France 15 jours ou 3 mois dans le cadre d'un billet touristique.
Un touristique.
Ouais, mais après, ils ne peuvent pas rester. Ouais, mais c'est pas normal.
C'est pas normal.
Parce
quand
que
vous
y a,
venez, quand
y a
vous
un article,
en tant que touriste.
Non, il y a un article, c'est le 13e, je crois, article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit qu'en fin de compte, n'importe quel citoyen de la planète peut aller et venir comme il veut. Donc on se doit d'accueillir, et c'est pas le cas, mais ça, c'est le fait politique, c'est ça qu'on critique. Eh ouais.
Voilà, critiquer qu'il y a toutes sortes de règles qui définissent la loi. Bon, allez.
Allez, merci d'avoir échangé.
Premier débat.
Hein?
Premier débat.
Ah ouais.
Ah non, mais ça va être compliqué.
C'est compliqué de toute façon de convaincre. Et là tout de suite, il a une dent contre les Noirs.
Qu'est-ce qu'il a dit en arrivant?
Non, le truc, ce mec-là, il a travaillé 3 ans à la préfecture. Il dit là, les Africains, lorsqu'on met, viennent d'Afrique subsaharienne, c'est l'Afrique noire.
Ouais.
Il calcule les deux, il dit c'est faux, ils sont pas 19, ils sont 48. Parce que la moitié, parce qu'il inclut là-dedans. Ceux qui viennent du Maghreb. Et après, là-dessus, il me dit, ceux qui viennent d'Afrique, ceux qui foutent le bordel à la préfecture. Et il vient de me dire un instant, ça, c'est celui qui dit. 3 fois par mois, ceux qui foutent le bordel, qui agressent, qui... C'est faux. Et même, comme je dis, s'ils le font, c'est à juste titre. Si on ne les traite pas à égalité avec les autres populations, et là, le fait qu'ils pointent le doigt sur les Africains, ça veut bien dire quelque chose.
Oui, c'est
comme
ça.
D'autres vont pointer le doigt sur les Maghrébins.
Oui, c'est sûr. Et en plus, du coup, c'est toujours le même débat sur l'immigration, sur les conditions d'accueil, en fait, la délinquance. C'est quand même très culotté de pointer du doigt la délinquance, vu les conditions d'accueil de ces personnes-là. Bon, mais je pense que ça va être intéressant, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde.
Ah oui, c'est bien.
C'est une très très bonne idée, l'échange.
L'expo, d'habitude, on le fait extérieur à République, mais c'est très bien de l'avoir inclus là-dedans.
Est-ce que tu peux nous la décrire un petit peu, juste...
L'expo ?
Ouais.
L'expo, c'est en gros 12 ou 13 clichés qui abordent des thèmes différents par rapport à l'immigration et qui sont faits pour tordre le cou au cliché négatif qu'ont le public, pas tous, les citoyens par rapport à l'immigration. Mmh. C'est pour dire qu'en fait, pour faire simple, l'immigration c'est une chance, et non pas le contraire comme laissent entendre les politiques qui sont pas... qui ne pensent pas comme nous, que c'est un...
Comme vous pouvez le constater, ici, il s'agit d'une association de défenseurs des sans-papiers, c'est-à-dire qui appuie les sans-papiers dans les démarches. Ils sont ici en train de faire une exposition ici au Champ Libre sur les clichés que le commun des mortels fait généralement à l'endroit des personnes migrantes. Donc, pour la population française, bref, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas les statistiques de ce qui se passe, ils se font l'impression de que les Africains, notamment les Africains, font la plupart des personnes qui forment l'immigration en France. Mais en fait, c'est faux. Ici, nous avons des statistiques de l'INSEE et de plusieurs autres structures qui démontrent que, en fait, oui, il y a un pourcentage, mais c'est minime par rapport à ce que la croyance populaire en pense. Mmh. C'est des statistiques issues des sondages. Mmh. Ici, en fait, on ne prend pas compte déjà de l'immigration de l'Europe de l'Est. Pratiquement, peut-être à cause de la couleur de la peau, ils se dissolvent facilement, oui, dans la population. Oui. Ils sont moins visibles. Par contre, les autres sont les identités remarquables et tout simplement, en fait, c'est plusieurs clichés. Donc, lorsqu'on voit en fait, des problèmes qui surgissent dans la société, on a l'impression que, en fait, c'est le fait des migrants et surtout des migrants. En fait, on fait la corrélation avec plusieurs maux de la société, tels que la drogue, la délinquance et tout ce qui y va. En fait, c'est l'association essaie de démystifier à travers ces clichés que vous voyez. Donc,
vous pouvez nous en lire un, par exemple ?
Oui. Quand on dit en France, un immigré et un étranger... séparés, là on dit c'est faux, un étranger n'a pas la nationalité française mais peut être né en France. Par contre, un immigré n'est pas né en France mais il peut être français, voilà. Entre autres.
Oui, bah oui, c'est ça, il y en a plusieurs aussi.
Oui, il y en a plusieurs. Donc ici, l'indicateur principal, là où vous voyez le vert, là où vous voyez le rouge, en fait c'est ce que le commun de mortel en pense. Mais là où vous voyez, il y a des indicateurs, là où vous verrez le vert aussi. Donc, il y a ce qui est vrai dans ce qui est dit dans les panneaux. Donc, en fait, l'objectif n'est pas que de blanchir en fait, la problématique de l'immigration.
Oui.
C'est vrai, mais il y a aussi deux catégories d'immigration. Il y a une immigration régulière et une immigration irrégulière. Moi, je suis une personne migrante, d'accord ? Je suis rentré dans ce pays avec un visa. Je ne sais pas dans quelle catégorie on me classe, mais on appelle généralement sans-papiers. Est-ce que la France doit rester un pays fermé ? Si la France se veut d'être une grande nation, est-ce que la France doit rester un pays fermé ? La France qui a des relations avec des pays partout dans le monde, est-ce que les États-Unis sont fermés au monde ? Est-ce que d'autres pays qui prétendent être, en fait, qui sont des grandes puissances, est-ce qu'elles sont fermées au monde ? C'est juste une problématique qu'il faut, en fait, il faut régler, il faut réguler. En fait, c'est comme ça que j'appelle. Moi, je suis là, on me considère comme ça. Mais je suis étudiant, en master, et je ne sais pas. Mais quand je veux passer, on va étiqueter, on va mettre les clichés. C'est cette éducation, c'est cette sensibilisation qu'il faut faire sur ceux qui n'ont pas peut-être eu la possibilité de sortir de ce pays. En fait, c'est ce que je vous dirais.
Merci beaucoup.
Mais je vous en prie.
Mais c'est génial, merci beaucoup.
Je vous en prie.
C'est super d'avoir vos témoignages.
Je vous en prie.
Et d'ailleurs,
c'était un plaisir.
Par ailleurs, si vous êtes intéressé, bon, je laisse parce que c'est plus simple pour moi, mais moi je travaille en partie un des projets de la radio, ça s'appelle Radio Exil. Et c'est une radio qui donne justement la parole aux sans-papiers sur toutes les thématiques, parce que c'est au centre des débats, mais les seules personnes qu'on n'entend pas, c'est les personnes les premières concernées. Voilà. Du coup, à Radio Exil, l'idée, c'est de créer complètement un média qui va, là on est au début, mais qui va au final devenir complètement autogéré par les sans-papiers.
D'accord.
Et donc on organise des plateaux. Souvent, je dirais qu'il y en a à peu près un tous les mois, tous les deux mois.
Ouais. Moi, je peux intervenir.
Bah oui, c'est ça. Et si, comment dire, je peux vous donner le site web, si vous voulez. Et on cherche vraiment des gens pour participer, pour avoir ce genre de témoignages qui sont manquants et ultra précieux dans tout ce débat.
Lui aussi, il a un témoignage.
Bah oui, je sais, mais j'ai pas envie de lui imposer mon micro parce que c'est pas l'objectif.
Il peut témoigner. En fait, il faudra que les gens sachent.
Oui, mais c'est ça, c'est ça.
Parce qu'on a aussi l'impression que le gouvernement en place ne fait rien contre l'immigration. Mais
bien
sûr, ils savent pas combien, quelles sont les difficultés que les personnes migrantes qui circulent dehors là endurent.
Ouais, bah oui, c'est ça.
Mais je ne sais pas. Est-ce que la France est un pays de droits de l'homme ou alors est-ce que... En fait, je sais pas ce que... Je sais pas qu'est-ce que les... Les gens voudraient que la France devienne, en fait. Est-ce que la France, ils voudraient que la France devienne, je ne sais pas, mais la France est d'abord pour ceux qui ne sont pas encore venus en France ou pour ceux qui connaissent la France de l'Est. La France est fondatrice des pays de.
C'est bien sûr, c'est le pays des droits de l'homme.
Droits de l'homme par excellence. Mais si ces droits ne sont pas déjà appliqués dans la France hexagonale elle-même, c'est un dilemme, c'est une contradiction, c'est un paradoxe.
Et c'est du racisme.
Voilà, je sais pas, mais c'est vous qui le dites, mais moi je voudrais pas que ça sorte de ma bouche, mais
si. Je le précise au micro, c'est sorti de ma bouche, mais... Ben oui, moi je dis ça parce que c'est... Y a aucune raison en fait pour que ça se passe comme ça, c'est basé sur un socle de préjugés et de... Et d'une mauvaise gestion en fait complètement de cette crise qui est une, mais qui n'est pas du tout gérée comme elle devrait l'être.
La première lecture que moi j'ai eu à faire quand je suis arrivé en France, c'est que... En fait, il y a une contradiction entre la théorie de ce qu'on connaît la France de l'extérieur et lorsqu'on y arrive à l'intérieur, on découvre tout à fait le contraire. Je ne sais pas, quand j'essaie de voir un peu les composants de la devise française, liberté, égalité, fraternité, moi je fais une lecture en tant que quelqu'un, une vision extérieure. Il y a des personnes migrantes qui sont nées ici en France. Moi, j'en croise aussi les comment est-ce qu'on appelle ceux qui sont à l'océan Indien là. En fait, quel est le territoire français qui est dans l'océan Indien?
Ah, la poule.
Dans le détroit de Zanzibar.
La Réunion.
La Réunion. Je rencontre les Réunionnais ici. Qui sont noirs comme moi, mais qui se plaignent qu'ils ne sont pas traités comme des Français. Mais ils ont des papiers, France, ils ont tout. Mais lorsqu'ils vont, par exemple, demander un logement, ils ne sont pas traités comme des Français. Mais c'est lamentable. Mais pourtant, ils sont Français des papiers. Mais au niveau de la pratique, ils se plaignent. C'est une vision de l'extérieur. Donc, pour moi, c'est une contradiction. Ouais. La France est pays des droits de l'homme. Mais ces droits doivent... En fait, on devrait voir comment ça s'applique déjà à partir de... Ce qui se vit de l'intérieur de la France. Ce n'est qu'une analyse extérieure
bien sûr,
que je fais.
Bien sûr. Bah, elle est très précieuse.
Je trouve ça une contradiction, un dilemme.
Ouais.
Je ne parle pas pour moi, je parle déjà pour ces gens-là. Lorsqu'ils vont chercher un logement, lorsqu'ils se pointent, quand ils font une demande en ligne, mais lorsqu'ils voient, on voit que on trouve que non, désolé, c'est déjà pris. Non. Ils sont français, ils ont tout ce qu'il faut, parfois même ils ont un emploi, ils ont. Vous avez utilisé une expression que moi je ne veux pas utiliser, mais.
Je comprends parce que.
Un peu à ça.
Moi, j'utilise cette expression qui est forte parce que je comprends pas en fait que ça puisse exister, comme vous dites, dans le pays dans lequel dans lequel je suis né, c'est jamais les valeurs qu'on m'a véhiculées quand j'étais petit par mes parents. Et je comprends pas qu'aujourd'hui, à des élections, on peut se retrouver avec 30% de gens qui sont pour des projets d'exclusion. On parle de remigration. Pour moi, c'est des termes qui sont d'une violence et que je ne peux pas imaginer, car je la vis pas personnellement. Mais je vous dis, mon seul moyen d'action, c'est de venir écouter des gens concernés. Et c'est pour ça que j'utilise le terme de racisme. J'imagine que c'est bien plus compliqué
si
que ça.
Nous en parlons aujourd'hui, si nous faisons cette exposition que vous voyez, c'est pour conscientiser, pas conscientiser la génération de ceux qui gèrent le pouvoir actuellement, mais c'est de conscientiser, en fait, de sensibiliser la génération des jeunes qui viennent, qu'ils prennent conscience de cette problématique, que les idéaux pour lesquels la France a lutté, quitter de la monarchie à la Révolution française de 1789, ne sont plus celles qui sont défendues aujourd'hui. C'est-à-dire dans la devise liberté, égalité, fraternité, ce n'est plus ça, ce n'est plus ce qui s'applique. Pour que cette génération prenne justement conscience et puisse, n'est-ce pas, établit de nouveaux paradigmes de gestion de l'État. Moi, je vois ce qui se passe à l'actualité actuelle. Il y a un jeune qui s'annonce là. Mais malheureusement, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il en pense? Ben oui, je vois bien leur thématique, c'est l'immigration. Mais ben oui, mais entre... En fait, c'est peut-être un peu délicat, mais je ne me prononce pas. Mais c'est un jeune.
Ouais.
C'est des hypothèses que nous émettons, que s'il arrivait qu'il prenne le pouvoir, comment est-ce qu'il va se comporter? Est-ce qu'il va se mettre dans les clichés de ceux qui ont déjà, en fait, une idée, déjà, disons, ancrée des clichés de ces personnes?
Bien sûr.
Et même,
je pense,
l'immigration, tous les pays du monde ont fonctionné avec l'immigration, en fait, les grandes nations. Il y a des petits métiers ici où les Français eux-mêmes ne veulent pas, pas dire, va faire des études pour devenir une personne qui fait le ménage. Donc tout le monde est important quelque part à l'échelle de la société.
Bien sûr.
C'est ce que je pense.
Oui. Et vous, qu'est-ce qui vous fait penser que. Comment vous pensez qu'il y a une telle part de la population française qui puisse rester justement dans tous ces nombreux clichés qu'on voit par terre? Est-ce que vous pensez que le problème, il est dans le système directement et que qu'il est fondé sur l'ignorance?
Je pense aussi que le problème est fondé sur l'ignorance parce que il y a des instituts qui font des statistiques de la problématique en question de l'immigration. Je ne fais pas forcément éloge de l'immigration. Je ne dis pas forcément que tout est vert, tout est bien.
Oui.
Je reconnais que, c'est une problématique qu'il faut contrôler. N'importe quel pays ne souhaiterait pas qu'il y ait des personnes qui viennent de l'extérieur et transformer l'anarchie dans son pays. N'importe quel pays, que ce soit... Nous qui venons, en fait, ces personnes qui viennent de leur pays, eux-mêmes n'accepteraient pas qu'on transpose une situation de désordre dans leur pays. Mais en fait, ces personnes demandent qu'une fois qu'ils arrivent en France, il y a des lois, elles doivent respecter ces lois, mais la France doit les traiter quand même avec dignité. Quand on parle même de sans-papiers, pour moi, c'est très péjoratif.
Oui, ok.
Personne n'est sans-papiers.
Oui. Oui, ok.
C'est péjoratif, c'est teint de cliché.
Oui, ok, très bien. Pensez-vous, le terme sans-papier vous gêne?
Oui, ça me gêne un tout petit peu parce qu'il n'y a personne qui puisse exister dans ce monde qui soit sans-papier.
Oui, sans-papier français.
Mais on n'aurait plus... Moi, je pense que l'expression qu'on donnerait à ce terme, c'est des personnes qui sont là, mais... qui ne sont pas régularisés, mais...
Non régularisés.
Okay. Ou alors en voie de régularisation, ou en voie d'intégration, mais sans papier, avec tout ce que ça accompagne comme fichier, ça n'aide pas pour l'intégration de ces personnes.
Je vois ce que vous voulez dire. Oui, c'est-à-dire que dans ce terme sans papier, il y a le fait qu'il y a quelque chose qui n'y a pas.
Il y a une étiquette négative.
Oui, il y a le mot sans qui dit qu'il n'y a pas ça. Quoi.
Ouais.
Alors que ça va beaucoup plus loin que
c'est des personnes, chacun a un acte de naissance, chacun a un passeport, chacun a une carte, même une carte, je vais dire, une carte de soit consulaire, de la représentation locale ici, soit sa carte d'identité nationale, mais sans papier, je trouve ça une exagération dans, en fait. Je sais pas à quelle expression, mais voilà, c'est très négatif, c'est très péjoratif.
Ouais. Okay. Ouais. Merci beaucoup.
Je t'en prie. C'était un plaisir.
Avec grand plaisir.
Sauf que on est en danger de mort, au moins de mort organisationnelle, parce que il y a des gros risques que l'extrême droite arrive au pouvoir. Donc à notre dernière assemblée générale qui avait lieu mardi, on en a une par semaine, on a décidé de choisir un lieu, de l'investir et d'essayer de le transformer en base, bon, on n'arrive pas à trouver l'expression, lieu de résistance à l'extrême droite. À la fois résistance, ça veut dire déjà de parler entre nous, de débattre parce qu'on n'est pas toujours d'accord, et d'agir, puisque on nous dit aussi que qu'est-ce qu'on fout à Rennes, puisqu'à Rennes le vote extrême droite est très faible, mais notre idée c'est que si on veut faire des choses ailleurs qu'à Rennes, il nous faut un lieu pour les organiser, et c'est pour ça qu'on a décidé de prendre un lieu quelque part, un lieu qui est ouvert, un lieu qui est grand, un lieu où il y a du passage parce qu'on tient à être vu, et un lieu qui est pour nous un symbole important. Nous, on appelle ça une occupation amie. Pourquoi amie? Parce que on considère que des lieux comme les Champs Libres, c'est des lieux avec lesquels, même si on est chiant parce qu'on occupe, on peut essayer de négocier de manière à coexister sans gêner le fonctionnement du lieu pendant plusieurs jours, puisque notre idée, c'est de rester plusieurs jours dans ce lieu. L'idée... Si c'est le collectif de soutien aux personnes sans papier qui lance, l'idée c'est d'en faire un lieu de ralliement pour tous les groupes opprimés qui risquent et qui sont menacés par l'extrême droite si jamais elle arrive au pouvoir. D'ailleurs, qui sont déjà menacés par différentes politiques qui existent, mais nous considérons que l'extrême droite c'est pas tout à fait la même chose. Et comme il y a urgence, comme en plus nous on est plein là, à vouloir faire quelque chose, mais on n'est pas nécessairement dans les partis, on n'est pas dans les syndicats. Et là, actuellement, et on comprend, on ne juge pas ça, mais on comprend que les partis et les syndicats soient obligés en urgence de s'organiser, puisqu'on se retrouve avec des législatives à trois semaines pour faire des programmes, faire des alliances comme ça se fait parfois, etc., se diviser aussi de l'autre côté, peu importe. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'est dit, nous, on veut contribuer à ça, comme on n'est pas dans les partis et les syndicats. C'est difficile de s'investir autrement que comme on sait le faire, c'est-à-dire en occupant un lieu. Donc le lieu qui a été choisi, c'est les Champs Libres. Ce n'est pas la première fois qu'on vient ici occuper. Je ne crois pas qu'on ait réussi à dormir une seule fois. Je ne crois pas. Voilà. Donc c'est la nouveauté. Cette fois, on veut rester dormir, sachant que pour nous, il y a un gros intérêt par rapport à ce qui va se passer demain, puisque demain, ici, il y a la marche des solidarités qui... Défaut de fabrication, c'est pas la marche de solidarité, c'est la marche des fiertés. Et à la marche des fiertés, plus un appel syndical à se réunir à 14h demain. Et ce lien, on voudrait le construire aussi grâce à ces événements, manifestations, contre lesquels on n'a rien, auxquels on participe aussi d'habitude. Mais toujours pareil, on trouve que ces appels à manifester, nous, ils nous mettent juste dans la situation de suivre et de ne pas pouvoir contribuer comme on voudrait ou comme on pourrait le faire en militant tous et toutes. Voilà l'idée de départ. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc, on est arrivé ici à 17h. On a été médiatisé un petit peu, mais pas beaucoup pour l'instant. Et on est en négociation avec le lieu, mais on n'a pas encore commencé à négocier concrètement. Vous êtes la directrice, je crois. C'est ça. Enchantée. Du coup, voilà un peu l'idée, madame. Est-ce que j'ai peut-être oublié quelque chose en parlant? Non? Ok.
Là, moi, je négocie avec...
Si vous pouvez, ce serait mieux, oui.
Je n'ai pas du tout l'impression de me trouver... Non, pas du tout. J'ai compris, j'ai entendu ce que vous avez dit. Moi, je ne vais pas juger là du coup des causes et vous comprendriez bien pourquoi. En tout cas, j'entends toutes les raisons de la mobilisation. Moi, en tant que directrice de ce lieu, j'ai deux problèmes. Vous savez, vous l'avez peut-être rencontré dans d'autres lieux, mais les champs libres, c'est quand même un peu particulier. On est un ERP de première catégorie. Donc, pour des raisons de sécurité, alors là, c'est strictement sécurité incendie, je ne peux laisser personne dormir dans le lieu. Et si je devais laisser dormir, il faudrait... je ne peux pas, il faut laisser ouvert le lieu, en fait. C'est des questions d'évacuation. Le deuxième sujet que j'ai, que n'avaient pas les autres lieux que vous avez pu occuper, c'est que les Champs Libres, c'est un lieu où les collections sont ouvertes. Collections du musée, collections de la bibliothèque, et c'est des collections qu'on ne peut pas isoler. C'est aussi un lieu de réserve, et à ce titre, c'est encore d'autres conditions de sécurité qui s'imposent. Donc moi, dans la place où je suis, à l'endroit où je suis purement technique, c'est-à-dire sans du tout juger ce qu'est votre cause et votre militance, je ne peux pas, sans me mettre en faute, vous laisser après la fermeture. Donc voilà ma situation à moi, de là où je suis.
Bon, on s'y attendait, de toute façon, oui, c'est ce qu'on nous dit à chaque fois. Je ne sais pas si vous nous connaissez. Oui, non, enfin, vous nous connaissez, le nous collectif. On occupe beaucoup, on a beaucoup occupé cette ville depuis qu'on existe et ça fait longtemps. Vous pouvez passer un petit coup de fil à Nathalie pour avoir nos lettres de noblesse sur nos modes d'occupation, mais il y a un truc auquel on s'engage systématiquement, c'est qu'on ne veut pas gêner le fonctionnement ordinaire du lieu, donc pas de souci, on est prêt à négocier beaucoup pour ça. Et l'autre chose, c'est que, évidemment, il ne s'agit pas que les œuvres, c'est des œuvres, tout ce qui est là disparaisse ou quoi que ce soit.
Il n'y a pas de doute sur votre honnêteté, ou enfin, je ne suis pas en train de dire, en disant ça, que vous voleriez des collections. Ce n'est pas ça mon sujet, c'est dans ce qu'est la définition de... Enfin, de ma responsabilité est de ne pas laisser l'équipement occupé en raison justement de la présence de collections qui ne peuvent pas être isolées et protégées. Outre les questions strictes de sécurité incendie, j'ai Yaya qui est là, qui est le représentant de la sécurité aux Champs Libres, qui connaît bien le lieu puisqu'il était là dès le début des Champs Libres. Il y a une... ouais. ça fait 18 ans qu'il travaille ici, donc en fait il connaît le lieu bien mieux que moi, comme sa poche, et il est le garant par délégation des conditions de... Enfin, notamment sur toute la partie évacuation et incendie. Et je pense que Yaya, s'il s'exprimait à ma place, serait encore beaucoup plus sévère que je ne le suis là dans la façon dont je vous expose les choses.
Et il va falloir trouver une solution, puisque nous, la décision d'Assemblée Générale, sauf si cette Assemblée Générale remet en question la décision, c'est plutôt de rester. On est prêt à négocier les conditions, notamment d'occupation de nuit, pas de soucis, sécurité, tout ça, on a l'habitude, et voilà. Par contre, il nous faut, l'idée, c'est d'avoir ce lieu qui soit en ouverture du matin, mais vous êtes en général ouvert le matin, sauf certains jours, je sais.
Donc on ouvre à midi. C'est midi 19h.
Bon, ok.
Sauf le week-end de 14 à 19.
Et il faut que ce lieu, on arrive à y faire des choses en soirée, en s'engageant, s'il le faut, à occuper de nuit de manière la plus discrète et la plus sécuritaire possible. Mais il nous faut ce lieu pour organiser des choses.
La nuit, c'est impossible. Enfin, je ne peux pas vous autoriser à rester la nuit. C'est même pas... Mon sujet, c'est que ce n'est pas un point négociable, en fait. La négociation, elle ne se passe pas sur ce périmètre-là, parce que je ne peux pas, sans me mettre dans l'illégalité, ouvrir cet endroit-là la nuit. Et ce point de négo, je ne peux pas.
Tout à l'heure, vous aviez l'air de dire que ce serait compliqué de le rendre possible, mais du coup, qu'est-ce qui le rendrait possible ?
La nuit, ce n'est pas possible. En fait, c'est pas possible la nuit. Je me suis peut-être exprimée avec trop de parce que je trop de pas assez fermement, parce que le but, c'est pas de rentrer en tension avec vous, sur la base de votre militance. Et comme je disais, j'ai entendu ce que vous avez évoqué. C'est juste que là, ce point, c'est pas possible, en fait. Je ne peux pas ouvrir la question de l'occupation des champs libres la nuit. Quand je dis la nuit, c'est à la fermeture.
L'objectif, c'est qu'il y ait plus de monde qui rejoigne le mouvement
là,
pour que ce soit une base pour lancer
des
actions à droite, à gauche, peut-être plus à gauche qu'à droite, et aussi à destination peut-être des circonscriptions qui sont plus disputées, par exemple, que celle de Rennes, où ici l'enjeu est un peu moins fort, électoralement parlant.
Une communication qui se fait un peu sur les réseaux.
Avant, on avait prévenu tout un tas d'organisations qu'on occuperait un lieu, mais sans dire lequel. Et là, on a envoyé des messages partout pour dire que le lieu, c'est ici.
D'accord. C'est la première fois que le champ libre est occupé
Non.
Non.
On est déjà venu plein de fois.
Ok. sur quel contexte?
Sur des problématiques, par exemple, de logement. Puisque nous, en tant que collectif sans papier, on a très souvent des gens dont la première problématique, c'est de se loger, ne serait-ce que pour pouvoir vivre ou survivre. Et donc, quand il y a des problèmes de logement, on occupe des lieux où on pense que les gens ne seront pas expulsés tout de suite, pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur le fait qu'il y a des gens qui sont à la rue. Donc ça, on l'a déjà fait ici. Il y a plein d'endroits. Ouais, plus général, ouais. Ouais, parce que là, le fait que l'extrême droite puisse réellement avoir le pouvoir là rapidement, ça change un peu la donne. Et au collectif sans papier, on s'est dit que nous, on n'avait pas trop les moyens à 30 ou 40 de faire des actions qui aient une portée suffisante pour que ça ait une influence. Et donc, on s'est dit, on va occuper ici, et puis il y aura peut-être du monde qui va venir, et que là, on sera beaucoup plus nombreux, et qu'on pourra faire des trucs. On a des idées. Il y a peut-être des gens qui vont venir avec plein d'autres idées pour faire des actions. Jamais aucun sans-papier n'a été arrêté pendant nos actions. Jamais aucun sans-papier n'a été embêté. On veut conserver ça, en fait.
Bonjour.
Bonjour.
Ouais. Vous êtes journaliste?
Oui.
Ok. Je me demandais comment vous avez été... Enfin, moi, je fais juste des archives de ce qui se déroule aujourd'hui dans le lieu, des archives sonores.
D'accord.
Avec la R22. Et je me demandais comment vous avez été mise au courant, du coup, de la...
On arrive toujours à être au courant,
okay,
d'une manière ou d'une autre.
D'accord. C'est les réseaux, là, ou c'est
ouais,
le collectif
directement?
Ouais,
c'est le collectif, ouais.
Ok,
ouais,
d'accord. Voilà. Ok. Et du coup, vous venez couvrir le lieu pour
West France, ouais.
Pour le West France.
Ouais,
okay.
Ouais, ouais. Bon, après, annoncer voilà, qu'il est ouvert... Et un peu l'initiative qui est lancée,
okay.
Donc à l'esprit, pourquoi.
Et ça, voilà. C'est diffusé sur le site West France,
ouais, c'est
pas ça directement.
Ouais.
Ou... Ok, ça
ouais,
marche.
Ouais, dans la soirée, là.
Ok.
Ouais, ouais.
Ce sera pas fait directement. Comment vous allez couvrir aussi cet événement, en fait, sur le week-end, si ça se déroule?
Bah, le week-end, on va déjà suivre les manifs.
Ouais, il y a beaucoup de choses.
Oui, demain, il y a la marche des fiertés. Il y a une grosse manif aussi contre l'extrême droite à l'appel de l'intersyndicale. Sachant que la marche des fiertés, déjà, c'est au moins 4-5 000 personnes chaque année, ce qui sera sans doute aussi très politique cette année, vu le contexte. Et puis la manif intersyndicale qui appelle à se rassembler au même endroit, à la même heure.
Ouais.
Donc on va déjà couvrir
okay.
toute cette journée.
Okay.
Et puis on passera à voir aussi les gens du collectif et voir comment le lieu... s'organise,
ouais.
Et puis voilà. Puis après, c'est vrai qu'on est beaucoup en contact avec le collectif, ça fait longtemps qu'on les connaît.
Ils ont déjà pas mal.
Moi, personnellement, ça fait 15 ans que je suis à Rennes. Je crois que c'est mes premiers papiers, c'était déjà sur les mobilisations du collectif. Donc, voilà, y a des personnes que je connais bien qui sont là depuis le début.
Okay.
Et on a suivi, à l'époque, c'était plus pour quand ils soutenaient, je me rappelle, d'un jeune lycéen qui était menacé d'expulsion et ils avaient fait beaucoup de rassemblements, de manifestations pour soutenir. Et depuis cette époque-là, on suit en fait leurs activités, leurs mobilisations, les occupations comme celle-ci qu'ils peuvent faire. Ils en ont déjà fait ici d'ailleurs.
Oui, on m'a dit ça, ouais.
Donc voilà.
Ok, merci.
De rien.
Mais pour moi, ça va être... Enfin, c'est coup de poker sur coup de poker, ce qu'ils jouent là. Ça peut être fait dans les règles de l'art. Mais c'est un coup de poker pour demain. Mais s'ils tiennent la nuit, c'est incroyable. Jusqu'à, jusqu'à la mobilisation de masse, ça peut être un bon coup à mener.
Toute l'insécurité qu'elle peut trouver autour de chez elle, dans la sud-sud, etc., le blo.
Elle est obligée de flairer.
Ouais, c'est vrai que... Les gens qui n'habitent pas à Rennes, des fois, qui sont partis de Rennes, me disent alors, il paraît qu'à Rennes... On dit ça de Nantes aussi. Je dis, c'est vrai que moi, je ne m'est jamais rien arrivé. Mais je sais pas.
Moi, quand je suis arrivée à Rennes, j'ai été hyper impressionnée par le nombre de personnes dans la ville. Et en fait, je me rends compte que quand je rentre chez moi, alors j'habite pas très loin, j'habite dans les Côtes d'Armor, mais dans une ville où quand je sors le soir, il n'y a personne. En fait, je flippe beaucoup plus. Et moi, j'adore le fait qu'il y ait énormément de monde, de diversité, etc. Ouais. Et ça me sécurise énormément. Et du coup, je pense que c'est des gens qui se sont aussi habitués à une forme de solitude, généralement. J'ai l'impression qu'ils l'aiment
parce
aussi.
Non, je pense pas. Parce que Rennes a toujours été assez animée et tout ça. Il y a toujours eu plein de monde dans les rues.
Ok.
Mais... Peut-être que c'est plus craignos maintenant. Moi, ça fait 40 ans que je suis à Rennes. J'ai vu l'évolution, sans doute, quand même. Ouais, je pense qu'il y a plus de misère humaine, d'une manière générale. Alors, c'est social, c'est des gens qui vont mal. Si, il y en a beaucoup. Je me suis arrêtée l'autre jour à Nantes. Il y a plein de gens de toutes sortes. Dans la rue, on sent qu'ils sont complètement hagards, complètement mal, quoi. Et ça peut générer un sentiment d'insécurité. Puis il peut y avoir de la violence. On sent des choses. On se méfie. Il y en a qui sont très cool, mais c'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui psychologiquement sont complètement perturbés, quoi.
Il y a aussi des quartiers plus problématiques que d'autres, quoi, de toute façon.
Ah bah oui, sans doute.
Où le deal est beaucoup plus important, etc. Et donc ça génère en fait des flux de population qui viennent chercher, qui achètent un truc.
Je ne sais pas si c'est uniquement ça.
Mais il y a ça quand même.
Mais il y a aussi le logement social qui fait qu'il y a une concentration.
Ouais.
Les vieux logements sociaux sont peut-être habités plus par.
Par exemple, et dans la rue sud, la mixité sociale n'est pas forcément. Ce qu'elle est dans d'autres quartiers.
Mais elle l'était au départ, mais elle ne l'est plus. Ouais. Parce que les gens en sont partis. Donc ça concentre beaucoup d'étrangers. Et donc, forcément, ceux qui restent se sentent complètement isolés, quoi. Mmh. Du coup.
Oui, ok.
Ouais. Mmh. Ouais.
Est-ce qu'elle habitait où, cette personne ?
Oh, à Blône,
Ok.
Ouais.
Il y a le conservatoire qui
Voilà. Bon, je voulais faire des choses.
Elle partait à la bibliothèque, je crois. Elle s'est arrêtée là, je pense.
D'accord, je pensais que c'était Dédé qui faisait partie.
Non. Donc, il y avait la personne à laquelle j'ai demandé, si vous avez des questions, tout ça, machin. Et puis, elle s'est greffée en fait à la discussion parce que racine, c'est un truc étranger autour de chez moi, tout ça. Bon, voilà. Quoi. Ouais.
Bonjour.
Ça va ?
C'est mon bateau.
Il y a la nage aussi.
Les Anglais sont immigrés aussi.
Il y a la nage aussi.
Ouais, c'est vrai.
Les Suédois, c'est des immigrés.
Ouais, il y a les radeaux de sauvetage.
Toi, t'es venu comment ?
En avion, Air France. Bon, après, 1er mars 2012.
Ta mère, elle est venue en construisant des...
Non, elle était portugaise, donc...
Elle a construit.
Elle a fait le Porto Francisco.
Merci beaucoup. Ouais,
Madame, mettez ça sur TikTok, les gars. Bah ouais, on a besoin de ça. De rien.
Vous venez pourquoi ? Je viens, c'est tout. Mais ça va fermer tout de suite.
Ah bon ?
Mes camarades, ils sont dedans. Donc,
d'accord.
Et ils n'ont pas essayé de m'empêcher d'entrer. Hein, ils disent aux gens, non, n'entrez pas, ça va fermer tout de suite.
D'accord. les deux qui...
Oui, il n'y a plus personne là. Non. Ils n'en empêchent pas, non, mais enfin, ils disent aux gens, vous savez, ça va fermer bientôt.
Ils essaient de les dissuader de rentrer, quoi. Ouais.
Ah non, non, tous les...
Durant l'occupation.
Bah, si vous avez l'argent à me donner, non mais concrètement, je veux dire, les gens ça se paye, c'est pas des bénévoles qui viennent...
Non mais c'est pour ça que dans le terme occupation amie, il y a aussi occupation. C'est que, effectivement, on s'impose, entre guillemets, et c'est un peu le... Pour la partie amie, c'est pour la partie on peut faire en sorte que tout se passe bien. Ouais. Voilà. Et franchement, on en a fait plein. La partie occupation, oui, c'est la partie chiante du truc. Et qu'il faut trouver une technique. Parce que sinon, on passe à la version policière, ce qui est peut-être pas super. Ça veut dire qu'il faut nous évacuer. C'est déjà arrivé plein de fois. Hein. C'est-à-dire que quand on n'arrive pas à trouver une manière de coexister, ça veut dire que c'est la police qui nous déloge. Et on considère que la situation politique fait qu'on peut imaginer que c'est grave et que du coup, il y a d'autres fois où on a accepté, on vous a occupé, on s'est dit, bon, ok, c'est chiant, on s'en va. Cette fois, dans 3 semaines, on a peut-être Le Pen, Bardella au pouvoir. Donc, je ne pense pas qu'on soit dans des dispositions où l'idée, c'est, ah, ben, excusez-nous, on repart et on rentre chez nous et il ne se passe rien. En fait, il faut qu'il se passe quelque chose dans ce pays. Il s'en passe des choses, je ne dis pas qu'il ne s'en passe pas, mais nous, on a envie d'y participer. Et désolé, mais on a trouvé que les champs libres, c'était génial pour ça, cet immense espace que vous avez vers l'extérieur. On est prêt à décider, on trouve une... Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas une petite salle avec une ouverture extérieure où ça simplifie le truc. Il faut une personne, c'est-à-dire que ça, la nuit, on le met sous alarme sans problème et il y a une partie non alarmée qui fait que on peut dormir là et dans la journée on est ici et on n'en parle plus quoi. C'est un peu notre proposition pour faire en sorte que ce lieu là soit sous sécurité de 23h à 8h du matin, on disparaît de ce lieu là.
Le lieu il ferme à 19h.
Oui,
le lieu il ferme à 19h.
Ce qui est chiant, c'est que nous il nous faut un lieu. Voilà, les gens ils bossent pour beaucoup et il faut que on puisse faire des choses le soir. On n'a pas trop le choix à part le soir pour faire des choses. Et l'idée, vous voyez, c'est écrit là, c'est que ce lieu, on veut le transformer comme lieu de ralliement pour qu'à 19h, il peut fermer normalement, mais que les personnes que nous, dont nous on a besoin pour lutter...
Dans un café ou ailleurs, dans un lieu public, hein.
L'idée, c'est qu'on soit beaucoup.
Hein. Non, mais du coup, si vous êtes beaucoup, ça va, c'est impossible. Enfin, je veux dire, c'est...
beaucoup, là...
Non, mais là, ça veut dire que vous occupez le lieu. Et ça, comme je vous l'ai dit, c'est pas possible, en fait. C'est juste
c'est
pas possible.
Mais trouver...
Malheureusement, je peux même pas ouvrir la négo là-dessus.
Les noctures de champs libres, ça arrive parfois.
Non. Enfin, sauf quand on a des vernissages, et c'est pour ça qu'on a des agents de sécu et qu'on vous a pas mis dehors à 19h. C'est que là, on avait organisé une inauguration qui s'est annulée. Enfin, on a les agents de sécu qui, minimum, qui étaient prévus pour l'inauguration, mais autrement, on aurait déjà appelé la police. Parce que, de fait, on peut pas vous laisser dans les champs libres après 19h. Oui, vous avez né, mais c'est pareil, c'est pas dire que vous étiez avec Vincent Pérez et Malik Diallo, le directeur de la bibliothèque, qui sont comme moi, c'est-à-dire qu'en fait, ils savaient qu'au bout du compte, vous devriez partir, parce que et en même temps, on n'a pas envie de créer le rapport de force tout de suite en vous disant, on prend ce temps pour vous expliquer nos raisons, pour vous expliquer pourquoi c'est pas possible.
Bonjour Corinne. Qu'est-ce qui est possible ?
Ce qui est possible, de toute façon, ça peut déjà être pas entre 19h et midi, très clairement. Entre 19h et midi au champ libre, c'est pas du tout jouable. Après, pendant les horaires d'ouverture, ce que peut être la manifestation... Non, ah oui, mais ça fait très longtemps que ça n'existe plus.
Je viens d'aller sur votre site,
non.
Dans la fête, est-ce qu'il y a des fois où
non.
C'est possible d'aller
par
saison, c'est indiqué par saison, il y a 3 nocturnes
organisées.
Ah, c'est pas un jour votre site.
Ah, la nuit des musées, oui, bah, c'est parce qu'il y a des événements, mais ils sont prévus depuis longtemps. Mais c'est exactement ce que je vous dis.
C'est des événements. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas infaisable.
Je ne vous ai pas dit que c'était infaisable, je vous ai dit qu'il fallait des gens.
L'idée, si vous voulez vraiment une mauvaise visite, faites au champ libre, faites à Rennes Métropole en nous évacuant de manière policière, alors qu'on est dans une situation politique qui est quand même exceptionnelle.
Oui, mais vous n'allez pas me le faire porter sur les épaules, là, pour le coup.
Si on vient ici, c'est qu'on veut du soutien. On est à Rennes Métropole. On est sur une métropole de gauche, donc à un moment donné, on dit « Ouh, la gauche, on a besoin de vous ».
Oui, mais alors, du coup, donc, à un moment donné, je suis désolée, aussi, mais c'est pas aussi, hyper clair en quoi une occupation des champs libres… Alors là, si vous voulez qu'on rentre dans le vif, et là, je n'ai pas souhaité vous mettre en cause, c'était la nature de votre action, mais si vous pensez que lutter pour qu'il n'y ait pas l'extrême droite dans 3 semaines au pouvoir, c'est d'occuper le hall des champs libres et de mobiliser nos équipes, etc., je pense que vous vous trompez. En fait, franchement, je pense que c'est pas le sujet, là. Et je suis désolée de vous dire comme ça. Et là, du coup, vous m'obligez à entrer dans un truc sur lequel j'ai pas envie de rentrer, c'est-à-dire rentrer là sur, à pied sur la négo, c'est pas ça l'endroit. Moi, je suis en train de vous dire, voilà, ma casquette, tout simple, c'est, je ne juge pas ce que vous voulez faire, je vous dis juste là, moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais bien sûr, sauf que là, moi, je ne vous réponds pas en tant que citoyenne. Je vous réponds avec ma casquette. Vous m'obligez à aller en tant que citoyenne sur le deuxième niveau. C'est pour ça que je vous dis, franchement, là, ce n'est pas le sujet.